Hello, hello, ici Pauline Nénio et bienvenue mes chers amis dans un nouvel épisode du gratin et plus particulièrement d'une leçon du gratin parce que vous le savez, le mercredi avec les leçons c'est un peu le moment de coaching où je vais répondre à vos questions par téléphone sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore. Mon objectif, vous le savez, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. En tout cas, j'y essaye. Aujourd'hui, je suis avec Alicia, fondatrice d'une jeune start-up couture, l'atelier Marquise, que je vous mets dans les notes de l'épisode, et qui est basée à Barcelone. Alicia me pose la question suivante. Comment arbitrer entre contenu gratuit pour faire grandir sa communauté et produits payants, typiquement tout ce qui va être formation, que ce soit d'ailleurs des formations online ou des formations payantes. Un sujet évidemment que je connais bien puisque j'ai de mon côté évidemment beaucoup beaucoup de contenu gratuit mais aussi beaucoup de formation payante maintenant avec le bootcamp et avec Growth pour aller un petit peu plus dans le détail avec les personnes que je peux accompagner. Plus largement, Alicia me dit comment canaliser mon énergie pour ne pas m'épuiser à vendre des produits qui rapportent des clopinettes, c'est ces mots pas les miens, mais développer une offre qui satisfasse clientes et entrepreneurs. Cette question est intéressante à l'heure des réseaux sociaux, évidemment. Parce que ce soit sur YouTube, Instagram ou même via un blog, la question de l'arbitrage entre contenu payant et gratuit est devenue un vrai casse-tête, un vrai sujet pour de nombreuses marques et de nombreux entrepreneurs. Avec ma petite expérience, je vais évidemment essayer de répondre au mieux à cette question avec Alicia. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Alicia ?
Oui, bonjour Pauline.
Salut, bienvenue sur la leçon du gratin. Je suis ravie de t'accueillir. Bah écoute Alicia, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite évidemment me poser ta question.
Oui, évidemment. Alors, donc moi je suis Alicia, j'ai 31 ans et je suis fondatrice d'une jeune start-up couture, on va dire, qui s'appelle Atelier Marquise et qui est basée à Barcelone.
Cool.
Ma spécialité, en fait, on va dire, c'est d'aider des particulières qui sont à la base souvent assez fans de mode durable à remplacer leurs achats fast fashion. Hein, elles sont comme tout le monde, au début elles vont chez Zara et elles cherchent une alternative et à leur apprendre à coudre leur garde-robe elles-mêmes.
Génial.
Et que ce soit adapté à ce que leur morphologie, ce qu'elles ont envie de faire, etc. Alors j'ai déjà lancé des cours physiques, on va dire, donc très classiques, hein, de couture ici à Barcelone, et ça marche plutôt bien. Ce qui a l'air de pas mal leur plaire, c'est des formules plutôt longues, c'est-à-dire qu'on va être pendant 2 mois ensemble, on se voit une fois par semaine, et je vais leur apprendre à coudre 2 pièces qui sont imposées, on va dire, au début. Donc on va par exemple faire un t-shirt et une jupe, et elles vont décider de leur particularité. Donc ça marche plutôt bien, mais j'ai des demandes qui ne sont pas basées à Barcelone, puisqu'évidemment je suis un petit peu limitée par mon emplacement géographique, et pour qui cette formule n'est pas possible. Donc ce que le confinement m'a donné un peu envie de développer, c'est des produits en ligne qui reprennent un peu le même principe que ce que je fais en physique. Et c'est là où c'est un peu plus dur pour moi de trouver l'équilibre parce que je suis un peu moins versée là-dedans puisque, alors évidemment, bon, comme toute jeune entreprise, je suis très branchée contenu en ligne, réseaux sociaux, mais tout était quasiment intégralement gratuit jusque-là. Par exemple, j'ai fait un guide de comment choisir sa première machine à coudre, des posts Instagram, une chaîne YouTube, des choses comme ça. Ça marche bien, mais maintenant j'aimerais bien proposer des choses payantes. Et c'est
d'accord.
Là où le bas blesse, c'est que quand on passe du gratuit
au payant, c'est plus facile hein, de vendre des choses gratuites.
Voilà. c'est sûr. Là, tout d'un coup, on se met nettement plus la pression. Donc voilà. Donc ma question porte sur comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre contenu gratuit pour faire grandir sa communauté, qui est un peu le passage obligé, et produits payants, et un petit peu plus largement, comment est-ce que je fais pour vraiment canaliser mon énergie, pour pas m'épuiser à vendre des choses qui finalement me rapportent beaucoup moins et qui du coup m'empêchent de travailler sur d'autres projets, donc pour que ce soit et satisfaisant pour moi et pour mes clientes, pour qu'elles en retirent des choses plutôt positives.
Super vaste sujet. Bah, écoute, je pense pas qu'il y ait de moment, si tu veux, où tu vas pouvoir être sûr à 100% que tu peux switcher de l'un à l'autre. Ce qui est certain, c'est que bah, tu l'as très bien dit toi-même. En fait, la première partie, c'est-à-dire avoir des contenus gratuits, tu donnes gratuitement de ton temps et de ta connaissance et de ton expérience. Et ça, en fait, ça a une vocation simple, c'est de te faire connaître et de créer une communauté et donc de créer cette confiance avec ta communauté. Parce que comme tu vas leur donner des contenus gratuits qui vont pouvoir consommer gratuitement, bah du coup, ils vont apprendre à te connaître, ils vont se faire un avis sur toi, savoir s'ils trouvent que tes contenus sont de qualité, etc. Et je pense que c'est déjà ce que tu as expérimenté. C'est ce que j'ai fait moi-même, évidemment, avec le gratin pendant maintenant plus de 2 ans et demi. Et en fait, c'est assez puissant comme outil parce que c'est vrai que les gens souvent se sentent assez frustrés, je pense, de donner, entre guillemets, leur expérience gratuitement. Mais la réalité, c'est qu'au début, si personne te connecte, t'as pas, entre guillemets, de légitimité, bah, c'est difficile de faire payer quoi que ce soit. Et très souvent, les créateurs de contenu commencent par avant de monétiser quoi que ce soit, juste donner énormément. Et une fois que tu as une communauté qui est suffisante, si tu veux, qui est suffisamment impliquée aussi et qui a confiance en toi et qui te connaît, bah là, ensuite, la monétisation, elle peut intervenir sur des sujets en général qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus poussés. Et il y a, sincèrement, les exemples sont légion de gens qui ont fait ce shift, mais c'est pas un shift qui est évident, c'est sûr, parce que ta communauté sera habituée à avoir des contenus gratuits et donc ensuite faire en sorte qu'ils acceptent de payer. Il faut que tu aies vraiment une autre valeur ajoutée si tu veux sur ton contenu payant, ça c'est évident. Donc,
comme ordre de grandeur en termes de taille de communauté.
Ça dépend complètement, si tu veux, de ce dont tu parles. Si t'es sur un métier un peu plus de niche, ce qui, je pense, est ton cas, parce que mine de rien, c'est quand même...
Même si c'est très à la mode, c'est quand même tout le monde le fait.
Mais qui est très bien, ce qui est très bien. En fait, si tu veux, l'avantage, si tu travailles avec une niche, ce qui est ton cas, parce que là, si je résume, on est sur de la mode, durable, et on veut, et du do-it-yourself, c'est-à-dire le fait de vouloir quand même, et d'avoir le temps, de faire soi-même, enfin, d'ajuster soi-même ses vêtements. Donc, ce qui est super, mais du coup,
Il y a aussi une partie, j'ai beaucoup de, et c'est ça d'ailleurs que je trouve presque le plus génial, c'est, il y a beaucoup de gens qui s'en servent aussi comme source pour accepter son corps. C'est-à-dire, je vais avoir des jeunes mamans, donc corps a beaucoup changé, elle se trouve un peu moins belle qu'avant, des choses comme ça. Donc tous ces gens-là aussi, ça les intéresse et ça fait aussi des gens à qui je peux proposer des contenus assez ciblés qui les aident à faire des ajustements. Sympa aussi, quoi.
Du coup, en fait, si tu veux, comme c'est malgré tout un petit peu plus niche que l'entrepreneuriat, par exemple, ou que, je sais pas, quelqu'un qui va créer des contenus sur comment bien maîtriser ses réseaux sociaux ou ce genre de choses, forcément, tu peux te permettre d'avoir une communauté qui est plus petite, mais aussi plus qualifiée, plus ciblée. Et donc, j'aurais pas de chiffres précis en tête, mais tu vois, souvent on dit à partir d'une communauté déjà de 1000 personnes vraiment actives, d'une communauté vraiment impliquée de 1000 personnes, déjà t'as vraiment moyen en fait de commencer à créer quelque chose d'intéressant parce que cette communauté va être intéressée mais leur contact également, du coup tu vas pouvoir générer de la prescription, de la recommandation, donc tu vois ça peut être utile. Je pense que dans ton cas de figure qui est quand même finalement, comme je le disais, une niche assez précise, tu pourrais même avoir une communauté plus petite que ça. Quand je dis 1000 personnes, c'est pas 1000 personnes sur tes réseaux sociaux, c'est 1000 personnes qui sont vraiment des personnes à qui tu penses que tu vas pouvoir vendre ton produit, des personnes qui sont tellement entre guillemets fans, qui ont tellement confiance en toi parce que tu leur as prouvé que ce que tu faisais, ça leur correspondait et que c'était de la qualité, que du coup ils vont accepter, si tu veux, de payer, tu vois, pour en savoir plus et pour avoir un petit peu plus de contenu. Donc 1000, à mon avis, c'est pour un job entre guillemets un peu mainstream. Sur quelque chose d'un petit peu plus niche, j'imagine qu'on peut diviser par deux, et donc quelque chose comme 500 vraiment personnes qui tu vois répondent très très souvent sur tes réseaux sociaux, enfin des personnes où tu les vois, tu vois, interagir avec toi, t'envoyer des messages, etc. Je te dis ça, c'est approximatif. Évidemment, ça peut être moins, ça peut être 200, ça peut être 300. Mais disons que si t'en as que 3, tu peux t'imaginer que ça va pas aller. À l'inverse, t'as pas besoin d'en avoir 10 000 non plus, si tu veux, pour commencer. Parce que, la bonne idée, à mon avis, c'est déjà de tester, de voir et d'être assez honnête sur le fait que c'est un test. Je sais pas si tu as commencé à le faire déjà, mais commencer à dire, écoutez, moi, j'ai fait énormément de contenu gratuit pour vous et je vais continuer à le faire. Après, si vous voulez passer à l'étape d'après, quelque chose de plus précis, peut-être avec un accompagnement de ta part aussi, eh bien à ce moment-là, je pense que ça peut passer par une formation payante parce que j'ai envie d'aller plus loin avec vous et de plus personnaliser la démarche. Et ça, tu viens... Tu vois, ça tu verras combien de personnes tu peux avoir.
Quelque chose qui plaît beaucoup dans les cours physiques, c'est le côté communauté. Parce qu'en fait, quand on est un adulte, qu'on n'a pas encore d'enfant, par exemple, et qu'on ne travaille pas forcément dans une entreprise avec beaucoup de gens, on a du mal à rencontrer des gens. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ça crée beaucoup de liens. Et c'est ça aussi que les gens aiment bien. Et ça, j'ai plus de mal à le transposer dans un cours en ligne où, pour le moment, les modèles que j'ai vus, c'est un peu plus difficile de créer des interactions, de créer un vrai groupe, puisque les gens sont derrière leur ordinateur. Donc,
bien sûr, c'est tout le challenge. Donc après, ça, c'est à toi de voir le format. Est-ce que le format, ça passe un peu plus comme un webinar, tu vois, par des séminaires finalement où tu as plusieurs personnes en même temps? Est-ce que ça passe par une formation en ligne avec éventuellement après une communauté derrière sur tes réseaux sociaux, sur un groupe Facebook, etc.? Ça, il y a plein de formules possibles. Ça dépend, je pense, aussi de, du volume, on va dire, de personnes qui sont intéressées, parce que tu vois, finalement, tu peux te dire, moi, ce que je vais proposer, c'est un vrai accompagnement super personnalisé. C'est par exemple, moi, tu sais, ce que je fais avec le bootcamp, où j'accompagne justement des entrepreneurs à développer leur business. Et donc ça, je le fais en groupe de 10. Donc si tu veux un groupe de 10 personnes, maxi, c'est en fait assez petit. Et donc ça permet d'avoir quand même à la fois une vraie, entre guillemets, communauté de pairs entre toutes les personnes que j'accompagne, qui vont vraiment apprendre à se connaître, parce que ça se fait sur 2-3 mois. Mais en même temps, je vais pouvoir moi aussi quand même vraiment personnaliser le message énormément, alors que si jamais, enfin par exemple Growth, qui est l'autre formation que je fais, je te parle de mes exemples parce que du coup c'est ce que je connais, mais Growth, qui est ma formation, tu sais, en ligne, pour le coup, clairement on est sur un tarif qui est inférieur parce qu'il y a moins de personnalisation, et c'est ça finalement, c'est mon temps, tu vois, d'une certaine manière, qui est le coût principal. Et donc sur la formation Growth, donc il y a ces formations, c'est 3 heures de vidéo, j'y ai mis énormément de temps, d'énergie, et c'est toute mon expérience, mais néanmoins c'est quand même moins personnalisé, parce qu'après t'as accès à un groupe Facebook où on répond avec l'équipe du gratin, mais globalement, si tu veux, c'est pas 3 heures passées ensemble à répondre aux questions des uns et des autres. Et donc le tarif, c'est pour ça qu'il est bien inférieur. Si tu veux, il est plus accessible parce qu'il y a un petit peu moins de personnalisation. Donc en fait, l'idée, c'est, je pense que toi, déjà, ça peut être 2 formats que tu vas proposer à terme, mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux proposer comme type de personnalisation? Est-ce que toi, tu penses que par rapport à ton produit, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir justement une personnalisation réelle avec une interaction de groupe, comme tu disais, de communauté, et auquel cas, tu peux avoir des groupes de 4, 5, 6 personnes peut-être en même temps, peut-être jusqu'à 10, peut-être jusqu'à 20, mais pas un nombre infini. Et à ce moment-là, tu en fais des sessions, tu vois, on va dire comme des promos, quoi, d'une certaine manière. Ou est-ce que tu as envie de faire quelque chose d'un petit peu plus à plus grande échelle, auquel cas, j'imagine que le tarif sera inférieur, qui permet d'avoir plus un format type court, tu vois, où on va avoir accès à ta connaissance et à tout ce que tu sais, mais avec un petit peu moins d'interaction avec toi. Je sais pas si tu as déjà réfléchi.
Ouais, en fait j'ai un cas concret là qu'il va falloir que je sur lequel il va falloir que je tranche. C'est je fais de la couture, mais je fais aussi une partie broderie que j'essaie de développer dans un deuxième temps. Et par exemple, pendant le confinement, j'ai créé des motifs de broderie. Donc ça se présente sous forme d'une feuille. Puis c'est des choses un peu dans l'air du temps, des mains, des lamas, des choses comme ça. Donc j'ai ce produit là entre guillemets que j'ai sous la main. Et j'ai un choix, c'est soit je le mets en ligne en tant que produit tout seul, pas cher, et je laisse un peu les gens se débrouiller, on va dire, avec ça pour trouver les solutions. Soit je me dis non, j'en fais quelque chose, je l'intègre dans quelque chose de plus complexe, une formation, je sais pas moi, 3 heures pour apprendre les 10 points de base pour se lancer en broderie et broder tout ce qu'on veut. Voilà, donc je suis un peu à ce croisement de chemin où est-ce que je multiplie des petits produits pas chers mais finalement qui me demandent quasiment autant d'énergie, ou est-ce que je switch sur quelque chose de plus ambitieux, plus long à préparer mais peut-être aussi potentiellement plus intéressant pour celles qui en bénéficient directement.
Alors, je sais pas exactement où t'en es dans ton histoire entrepreneuriale, Alicia, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que tu testes plein de choses. Et que la réalité, c'est que je pense que tu vas devoir tester les deux, et tu vas devoir même tester encore plus de choses que ça. Et c'est comme ça que tu vas savoir si jamais il y en a un ou un autre qui fonctionne mieux. Parce que peut-être que tu vas te rendre compte que dans ton secteur d'activité à toi spécifiquement, en fait, ce qui cartonne, c'est, je te dis n'importe quoi, la vidéoconférence en one-to-one avec toi, mais que tu fais payer, par exemple, très cher. Peut-être qu'à l'inverse, c'est pas du tout ça, et qu'au contraire, quelques contenus bien ficelée, tu vois, en mode méthode très actionnable, tu vois, un peu type vidéo YouTube, ça, c'est quelque chose qui cartonne et que les gens sont prêts à payer avec régularité, peut-être même via un abonnement, tu vois, mensuel pour avoir des nouveaux contenus tout le temps. Et ça, en fait, sincèrement, je peux pas te le dire parce que j'en sais rien. Et notamment,
oui,
j'en sais rien parce qu'en fait, c'est différent pour tout le monde.
Il faut le tester. C'est ce que j'ai fait pour les cours physiques. Déjà, avant d'arriver à ma formule, j'ai testé plein de choses. Et puis au début, j'étais là, c'est pas possible, pourquoi ça marche pas? Et en fait, non, il fallait vraiment arriver jusqu'à ce que ça soit la bonne proposition qui intéresse vraiment les gens. Donc, oui,
exactement.
Je vois ce que tu veux dire.
Et du coup, pour le tester, en fait, c'est assez simple. Moi, ce que je te conseille, c'est de te fixer quelques objectifs de deadline, de temps. Que tu dises, bah, en fait, je vais faire un premier test. Et commence toujours petit, hein, évidemment, parce que t'es pas à l'abri d'une bonne nouvelle que justement une formation toute simple, en fait, cartonne. Et en fait, plutôt que de passer 10 ans à la faire, autant que t'y mettes un petit peu moins de temps. Et si ça se trouve, tu vas te rendre compte que ça va être exactement ce que ta clientèle souhaite. Donc, c'est pas plus mal. Donc, plutôt que de créer une usine à gaz, tu vois, où tu vas y réfléchir pendant 2 ans, et si ça se trouve, ça va être un flop total, autant commencer petit. Déjà, pour une raison simple, c'est que ça va te forcer à passer à l'action. Et on le sait bien, malheureusement, on a tous un petit biais à la procrastination, et puis surtout au fait de un peu repousser pour être dans la réflexion, parce que quand même, passer à l'action, c'est juste un risque.
Ah ouais, ça fait peur.
C'est un petit risque de se planter, tu vois. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est un test, et que c'est pas que tu vas te planter, c'est juste que tu vas apprendre. Vois-le comme ça. C'est-à-dire que si jamais cette petite formation que tu lances, en fait, t'as 3 personnes qui souscrivent et que tu te rends compte qu'en fait ils sont même pas vraiment fans, bah ça veut juste dire qu'il faut faire autre chose. Si tu crois en ton produit et que tu sais qu'il peut apporter de la valeur à d'autres personnes, bah tu vas finir par trouver la bonne formule. C'est juste que tu peux pas la trouver comme ça en claquant des doigts, va falloir que tu testes. Et donc moi vraiment ma recommandation principale, ça serait un, de tester énormément de choses, et deuxièmement, du coup, de te créer, si tu as un petit planning, tout simplement, pour te dire, bah, en fait, c'est quoi les 5 trucs auxquels je crois? Parce qu'il faut quand même y mettre un minimum de bon sens. Ok, il y a de la formation super personnalisée, il y a une formation très courte, actionnable, il y a des formations en groupe, je te dis n'importe quoi. Bon, mettons, il y a ces 3 sujets-là. Combien de temps j'ai besoin pour tel et tel sujet? Ok, très bien. Combien de temps, du coup, il me faut pour pouvoir les mettre en ligne? Ok, très bien. Et du coup, tu le lances. Et puis tu vois, tu te fais... finalement, t'es maître de ton propre destin. Tu crées tes deadlines, tu crées ton framework et tu te dis, ben, si je veux réellement apprendre un maximum de choses avec cette entreprise et puis apporter un maximum de valeur à mes clients, il va falloir que je teste un paquet d'itérations différentes et que j'expérimente finalement avec tous ces formats. Et quand on voit même les contenus gratuits, si tu veux, même des boîtes comme Instagram, qui sont quand même des mastodontes énormes, quand ils te lancent un format comme Reels, ou même à l'époque IGTV, enfin, le nombre de choses qu'eux-mêmes testent, et pourtant ils font, voilà, je pense, un certain nombre d'expérimentations en amont, ne savent pas si ça va marcher ou pas. Dis-toi que, du coup, quand on est entrepreneur, c'est le nerf de la guerre, et que, a fortiori, quand on est agile, qu'on est une plus jeune entreprise avec moins de personnel, clairement, c'est exactement par là qu'il faut passer. Donc, je dirais que je pense que ton cas, il est assez simple, si je puis me permettre. C'est juste que je pense que tu as 1000 idées, tu as l'air d'être quelqu'un de très créatif en plus. Bah maintenant, en fait, il faut juste que tu dises, ok, c'est quoi les idées auxquelles je crois le plus? Il faut quand même y mettre une fois de plus du bon sens. Ça sert à rien d'être exhaustif. S'il y a des trucs auxquels tu crois pas du tout, ne commence pas par faire ça. Peut-être
oui,
que tu finiras
déjà,
par le faire.
J'ai déjà des retours, en fait, parce que j'en avais déjà fait aussi un petit peu en cours physique pour la broderie aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Quel que soit le produit qu'on veut faire en ligne, si on l'a déjà d'abord un peu créé en physique, ça rassure un peu, même si c'est 2 cours, etc. Et ça m'a déjà donné des idées, parce que tout simplement, les personnes qui ont participé m'ont dit on aimerait bien faire tel truc, tu voudrais pas nous apprendre à faire ça, etc. Donc c'est vrai que je vois déjà un peu, il faut juste que je sois raisonnable et que je me lance pas sur 15 trucs en même temps.
Non,
je
pense pas 15, mais par contre, il faut que t'acceptes l'idée de, tu vois, potentiellement te planter et de pas tirer juste du premier coup. C'est pas grave, mais par contre ça tu le sauras seulement quand tu vas tester. Et donc moi, en fait, je pense le meilleur conseil que je peux te donner au-delà de tester, c'est de te créer ton planning, tout simplement, tu vois, et de te dire, bah ok, là par exemple on est début juillet, quand est-ce que je vais pouvoir lancer la première formation, quand est-ce que je crois que je vais pouvoir lancer la deuxième, etc., etc., et que tu te fasses un planning, tu vois, sur les 6-9 prochains mois par exemple, si tu penses que t'as besoin de ce temps-là. Et du coup, en fait, ce qui est assez cool, c'est que ça va te faire aussi ton business plan, et puis ta stratégie tout simplement annuelle. À mon avis, ta stratégie pour cette année, en tout cas, ou pour l'année prochaine, si j'ai bien compris, c'est que t'es pas encore totalement sûr de ton business plan. Bah du coup, il faut que tu testes plein d'options possibles pour savoir quel est pour toi le meilleur, tu vois, finalement le meilleur produit, celui qui est le plus intéressant pour toi et qui plaît le plus à tes clients. Et ça, en fait, ça va passer par évidemment pas mal de tests. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette phase qui peut durer 6 mois, 1 an. Pour certaines boîtes, malheureusement, ça dure même 3-4 ans. Mais je pense que si tu es assez active dans le fait de tester des choses de manière rapide et surtout essayer d'en avoir des feedbacks, tu vois, comme tu le disais, tu parles à tes clients, t'essayes de comprendre ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu et tu vois comment t'améliorer, je pense que tu peux toucher du doigt assez rapidement, si tu veux, quel sera le bon mix produit et puis appétence de ta clientèle. Donc ça peut être un bon moyen, je pense, de te lancer.
Super. Écoute, merci beaucoup. Moi, j'avais aussi une autre question, parce que je sens que... Alors, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà évoqué, mais j'ai un petit blocage aussi sur vendre cher. Moi, j'ai toujours envie de mettre pas cher. C'est illusoire en me disant que ça va être plus facile, mais on constate que c'est pas du tout le cas. Les formations qui sont plus chères, en fait, quasiment se vendent mieux, puisqu'elle j'y crois plus, et du coup, ça doit se sentir dans la vente. Donc, si tu as des conseils sur oser mettre le prix qu'on pense juste par rapport au marché, par rapport au temps, par rapport à ce que ça apporte aux clients, je prends.
Alors, ça va être un tout autre sujet. Sincèrement, ça vaudrait la peine d'en faire une leçon à part entière. Ça me donne d'ailleurs une idée. Ce que je peux déjà te dire, c'est que, en fait, ce qu'on constate, c'est que très souvent, en fait, effectivement, on a tendance à se sous-pricer, et notamment les personnes qui vendent leur temps ont tendance à se sous-pricer parce qu'ils se rendent pas compte, en fait, que leur produit, il apporte une réelle valeur, si tu veux, à leur clientèle. Après, je suis pas en train de te dire, il faut que tu vendes le truc seulement 5000 euros et en tout cas, tu vois, la Maserati. La Maserati du monde de la couture, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu sais que tu as probablement un petit biais. D'ailleurs, si tu me poses cette question, a priori, tu sais que tu as un petit biais sur le fait que tu vends un petit peu pas assez cher. Ce qui est certain, c'est que en fait, le prix de vente, c'est avant tout une valeur perçue, et c'est un choix stratégique au sens est-ce que tu veux plutôt promouvoir un produit qui va être accessible, et donc qui va être accessible à beaucoup de monde, mais auquel cas ça veut dire, il faut que tu réalises que ta personnalisation va être moins importante, parce qu'en fait, pour l'instant, si tu veux, si tu as 10, 20, 30 clients, tu vas pouvoir le faire. Mais avec le temps, juste la qualité de ton service, en fait, va être pas très bonne. Si jamais tu restes sur des prix qui sont inférieurs, tu pourras pas recruter, par exemple, des équipes suffisantes, etc., pour pouvoir, en fait, apporter cette qualité de service. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le prix de vente, il est directement corrélé, non pas forcément à ton temps, à toi, mais au temps de l'entreprise. Au temps que l'entreprise va consacrer à ses clients, et puis aussi au temps que tu as mis, évidemment, à créer ce contenu, et puis même à toute l'expérience que tu peux donner. Donc en fait, c'est les trois éléments, si tu veux, qui vont constituer le prix, si tu veux, de ton produit. Mais après, tout ça, évidemment, est très subjectif. Donc la question, c'est, notamment par rapport à la concurrence, où est-ce que je veux me situer? Est-ce que je veux plutôt être sur du premium? Est-ce que je veux plutôt être en dessous? Quel est, si tu veux, mon choix stratégique? Est-ce que je veux plutôt avoir un prix qui est en dessous du marché? Parce que moi, mon but, c'est de rendre ces contenus finalement assez accessibles. Est-ce que, à l'inverse, t'as vraiment envie d'aller assez loin dans la personnalisation, dans le service, et que, au contraire, t'as envie d'être vraiment sur une offre qui fait que tu vas avoir moins de monde, mais tu vas pouvoir vraiment te consacrer énormément à ces personnes-là? Je pense que c'est ça, si tu veux, le raisonnement qu'il faut avoir. Et donc, une fois que tu auras choisi ça, et ça, une fois de plus, ça se teste, tu vas pouvoir faire des formations qui sont plutôt accessibles et d'autres, je pense, qui sont plus chères. Tu verras bien, si tu veux, qu'est-ce qui fonctionne. Un bon moyen de le tester, par exemple, c'est de créer, alors dans un premier temps, tu créeras une formation, par exemple, assez accessible, de créer, par exemple, de ce qu'on appelle de l'upsell dans le jargon, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir la première formation, je sais pas, à 200 euros, la deuxième avec un prix un peu inférieur, plutôt à 60 euros, et puis d'en avoir une très accessible à 30 euros. Je te dis, ces prix-là, c'est peut-être rien à voir, c'est peut-être 1500 et 300, mais ce que je veux dire, créer une fourchette de prix va aussi te permettre de comprendre quelle est la valeur perçue de ton produit et l'appétence aussi, la willingness to pay, comme ils disent en anglais, je suis désolée, je cherche le mot en français, mais l'appétence à payer, si tu veux, de tes clients pour ce produit. Parce que peut-être qu'on peut vouloir investir beaucoup sur certains types de formations et un peu moins sur d'autres. Pas parce qu'on n'y croit pas parce que c'est pas des bonnes formations, mais juste parce que psychologiquement, les gens sont pas habitués, tu vois, à payer beaucoup d'argent pour ce genre de choses.
La couture, on est en plein dedans parce qu'il y a pas mal de contenu gratuit qui existe déjà sur YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh ben c'est bon, je vais regarder 3 tutos et puis je vais être capable de me faire toute ma garde-robe. » Et ce n'est qu'en se frottant à l'exercice ils se disent « Ah oui, non, en fait, je comprends pourquoi les gens me disent qu'ils mettent plusieurs années avant de bien maîtriser ce qu'ils veulent faire. » Et d'ailleurs, moi, quand j'ai regardé un peu mes clientes avec lesquelles on bossait le mieux, c'est des gens qui, justement, ont déjà conscience de ça, en fait, sont déjà sensibilisés sur la valeur. Mais c'est sûr qu'il y a toujours à côté, on se dit « Ouais, bah, je peux peut-être le trouver sur YouTube gratuitement. Pourquoi est-ce que j'irais payer quelque chose à côté ?»
Bah exactement, donc si tu sais qu'il y a ça, ça veut dire qu'a priori quand même tu vas, soit il faut que tu offres un service qui soit tellement radicalement différent comme c'est le cas probablement avec les cours en réel ou comme c'est le cas avec quelque chose de très personnalisé que là tu peux te permettre si tu veux parce que tu as une forte différenciation et beaucoup de temps passé de faire payer plus cher, mais c'est sûr que si jamais tu as finalement quelque chose qui est assez proche d'une vidéo YouTube, ben en fait t'es en concurrence avec du gratuit, donc ça va être beaucoup plus difficile,
non, c'est sûr de monétiser. Justement, faire autre chose, quoi. Et puis, en fait, souvent, c'est pas la solution parce qu'elles vont regarder la vidéo et puis elles auront pas très bien compris, elles vont se décourager, il n'y a pas du tout d'effet d'entraînement, de « allez, je le fais en même temps que les autres », ah bah, une telle, elle a réussi, il n'y a pas de raison que moi, je finisse pas mon maillot de bain. On fait des sessions de shooting photo, par exemple, quand on finit l'atelier. Donc là, il y a un côté très, très valorisant à se dire « bah voilà, j'y suis arrivée ». Souvent, elles arrivent en disant « ah non, mais moi, tu vas voir, je suis très, très nulle, hein, je vais pas y arriver ». Je leur dis « mais si, tu vas voir, ça va le faire. » Donc, je voudrais transposer ça, mais en ligne.
Bah écoute, en fait, je reviens au conseil initial qui était le fait de tester plein de choses, parce que c'est pas parce que tu lances une première formation à 100 € que plus tard, en fait, tu vas pas finir par la vendre à 800 € ou 900 €. Finalement, on n'en sait rien et tout ça, c'est une histoire de valeur perçue, notamment, et aussi évidemment de la personnalisation que tu vas mettre derrière, mais globalement, il n'y a pas de bonne réponse et je pense que le meilleur moyen, enfin, les deux conseils que je peux donner, c'est de, donc une fois de plus, moi, ce que je propose, c'est qu'à la fin de cette leçon, tu te dises, ok, bah concrètement, c'est quoi les quelques trucs, enfin les quelques formations, les types de formations, les types de produits que je veux tester, que tu te fasses ton planning sur les 6-9 mois à venir, par exemple, ou même moi, hein, si jamais tu peux être plus rapide que ça, mais globalement que tu te fasses ce planning, et qu'au sein de ça, tu te dises, ben, je vais en profiter pour tester aussi certains types de prix, tu vois, et ça va te permettre justement de répondre à ces deux questions, je pense.
Ok, super.
Bon, bah écoute, en tout cas, tiens-moi au courant, Alicia, ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles et de savoir comment tout ça se déroule et si jamais tu arrives à trouver chaussure à ton pied niveau de ton offre. C'est pas des questions faciles, mais je suis convaincue qu'en fait, avec un petit peu de travail et puis surtout plein de tests, comme on le disait, il y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc j'ai hâte de savoir ce que tu vas finir par découvrir.
Super, et ben merci beaucoup Pauline pour tous ces conseils. Là, j'ai pris des notes en même temps, là, tu vois, je continue les bonnes habitudes, donc je vais aller tester tout ça rapidement.
Génial, merci beaucoup Alicia, je te dis à bientôt.
À bientôt Pauline.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.